Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Cette semaine, dans les Clés de l'écho, on est avec Léo Malherbe. Bonjour Léo.
Bonjour.
Tu es maître de conférences en économie à l'université de Picardie, Jules Verne. Et aujourd'hui, de quoi est-ce que tu vas nous parler ?
Bah aujourd'hui, j'aimerais pouvoir attirer l'attention des auditeurs sur les travaux d'une économiste, qui est déjà intéressant en soi dans une profession aussi masculine que la nôtre. Et donc une économiste assez jeune, une économiste de 35 ans et qui est en train de connaître un succès assez notable, malgré le fait qu'elle diffuse, on va dire, une pensée d'inspiration assez hétérodoxe. Et cette économiste, elle s'appelle Isabella Weber.
Alors pour la situer un petit peu, est-ce que tu peux nous faire quelques rappels sur son parcours et ses thématiques de recherche ?
Alors, elle a commencé par étudier les sciences politiques à Berlin, étudié aussi le chinois. On va voir que ses travaux de recherche ont beaucoup porté sur la Chine. Et puis un petit peu plus tard, elle a fini par obtenir un master d'économie dans une université assez prestigieuse, mais malgré tout progressiste à New York, la New School for Social Research. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé, on va dire, ses travaux sur la Chine. Mmh. Elle a pu voyager depuis New York jusqu'à Cambridge, où elle a commencé sa thèse de doctorat. Et donc, c'est sur ces travaux-là que je voulais m'attarder un petit peu, puisque sa thèse, qui portait sur la réforme du système de prix en Chine au cours des années 80, était assez intéressante en ce qu'elle essayait de comparer la trajectoire qu'avait suivie la Chine à celle qu'avait suivie la Russie. Donc, si on essaye de résumer assez rapidement ces travaux, selon elle, on a d'un côté l'exemple russe où on a appliqué ce qu'elle appelle la doctrine du Big Bang, c'est-à-dire une libéralisation extrêmement rapide d'une économie dirigée, un passage très rapide d'une économie dirigée à une économie de marché. Et elle montre qu'à l'inverse, du côté de la Chine, il y a eu une approche qu'on qualifie parfois de gradualisme expérimental, et que c'est cette approche-là qui a permis de réformer progressivement le système de prix, et que ça a été une des conditions nécessaires pour assurer le succès économique de la Chine. Mmh. Donc sa thèse, c'est un gros travail d'archives, c'est de très nombreux entretiens, etc. Et en gros, elle montre comment émerge un nouveau système de prix en Chine qui s'appelle donc le Dual Track Price System. Et c'est une sorte de système de prix intermédiaire où on va combiner dans certains secteurs des prix fixés par l'État et dans d'autres secteurs des prix qui vont être fixés plus librement par des mécanismes de marché. Elle montre aussi que tout ça c'est fait dans une philosophie, on va dire, très pragmatique de la politique économique. On n'était pas du tout dans une vision idéaliste dans laquelle il fallait à tout prix passer à une économie de marché ou à l'inverse, à tout prix rejeter le marché. Voilà, cette approche un peu graduelle avait été très efficace pour mener des expérimentations et essayer de choisir la bonne stratégie. Et donc tout ça débouche, j'ai presque fini sur son parcours, sur un ouvrage qui a été publié en 2021 qui s'appelle How China Escaped Shock Therapy. Et c'est à partir de là, vraiment, on va dire que ses travaux ont été assez connus au niveau mondial. Et c'est un travail qui a été encensé par plusieurs économistes. On peut penser à James Galbraith ou encore à Branko Milanovic, donc des économistes assez connus, hein, qui ont vraiment insisté sur la qualité de ce travail sur l'économie chinoise des années 80.
Alors, quel est l'intérêt de cet ouvrage qui a été rédigé dans une perspective plutôt historique pour analyser la situation macroéconomique actuelle, Léo ?
L'intérêt de cet ouvrage, donc, au-delà d'insister sur le rôle des politiques de contrôle de prix dans le succès économique chinois, c'est aussi, et puis c'est peut-être même surtout pour ce qui nous intéresse ici, le fait que cet ouvrage il s'est attaché à rappeler que ces politiques de contrôle de prix n'étaient pas du tout une spécificité chinoise, en fait. Que ces politiques de contrôle de prix, elles avaient déjà existé, même avant leur usage en Chine, notamment aux États-Unis, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut mentionner par exemple John Kenneth Galbraith, donc le père de James Galbraith que je viens de mentionner juste avant, qui avait été chargé par Roosevelt de la gestion du contrôle des prix aux États-Unis dans les années 40, puis qui avait rédigé un ouvrage sur la question du contrôle des prix dans les années 50. On peut aussi rappeler dans l'histoire plutôt française que de nombreux prix étaient fixés par le Comité national des prix au sortir de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Donc l'idée, c'est que ces pratiques de contrôle de prix, elles sont tombées progressivement en désuétude dans le monde occidental depuis le tournant libéral des années 80, si on essaye de faire simple. Mais ce qu'on constate, c'est que ces politiques-là, elles ont une nouvelle actualité qui s'explique par le retour des pressions inflationnistes qu'on observe depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc ces propositions de contrôle de prix, elles ont très rapidement été mises sur la table par Isabella Weber quand l'inflation a ressurgi au cours de l'année 2021. Et alors ces propositions, elles ont été très vivement critiquées au départ. On peut mentionner par exemple Paul Krugman, prix Nobel, économiste qu'on qualifie parfois de keynésien, de progressiste, mais qui reste un économiste assez libéral. Alors lui, il avait jugé la proposition d'Isabella Weber de vraiment stupide, puis il s'en est excusé un petit peu plus tard. Et je mentionne cette anecdote parce que elle illustre un mouvement un petit peu plus général. Ce que je veux dire par là, c'est que les politiques de contrôle de prix qui ont été défendues par Isabella Weber, hier, c'était des politiques qui étaient considérées comme complètement hérétiques, et aujourd'hui, elles sont non seulement de plus en plus acceptées parmi les économistes, mais elles sont même mobilisées par d'assez nombreux gouvernements, et ce, y compris dans les économies capitalistes développées. Mmh. Donc le point ici, c'est que Isabella Weber, historienne, spécialiste de la transition chinoise, hier encore considérée comme une économiste, on va dire, irréaliste, eh bien, elle est maintenant présentée par Bloomberg comme l'une des 50 personnalités à suivre. Elle est régulièrement interrogée dans la presse, y compris dans la presse financière.
Alors concrètement, quand on parle de contrôle des prix, de quoi il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit d'encadrer tous les prix, Léo ?
Alors la force de la proposition d'Isabella Weber, telle qu'elle la présente plus en détail dans son tout dernier papier de 2022, c'est précisément de chercher à identifier empiriquement, c'est-à-dire à partir des données, les secteurs dont les prix sont systémiques. Ce qu'elle appelle des prix systémiques, ce sont des prix dont la dynamique va avoir un effet notable sur le niveau général des prix. Autrement dit, quand on a des périodes d'inflation, certains secteurs clés doivent, selon elle, faire l'objet de mesures administratives de contrôle des prix pour éviter un emballement plus généralisé. Donc, dans son papier, qui porte plus spécifiquement sur l'économie américaine, elle identifie un certain nombre de secteurs dont les prix sont systémiques. Bon, essentiellement, d'après son étude, on a dans ces secteurs dont les prix sont systémiques, le secteur énergétique bien sûr, le secteur produisant des intrants productifs hors énergie, donc on peut penser aux matières premières, aux produits chimiques, etc., et le secteur des biens de consommation de première nécessité. Donc selon elle, c'est sur ces prix-là que des mesures de contrôle, donc de contrôle des prix, doivent être envisagées, bon, avec l'idée de comprimer les marges pour éviter certains comportements opportunistes, mais en même temps en cherchant à maintenir la rentabilité de ces secteurs. Donc le contrôle des prix tel qu'il est envisagé ici, ce n'est pas du tout le passage à une économie centralisée où l'État fixe tous les prix, c'est plutôt des mesures localisées d'endiguement de l'inflation. Et pour finir, et faire un peu le lien avec notre précédente chronique sur l'inflation et les réactions des banques centrales, on voit ici que avec les travaux d'Isabella Weber, d'autres outils que la hausse des taux d'intérêt existent pour faire face à la situation actuelle d'inflation. Donc les outils qu'elle propose de contrôle temporaire et ciblé des prix, ce sont des outils qui sont en dehors du champ, on va dire, traditionnel de la politique monétaire, en dehors des outils habituels des banques centrales, mais il est pour autant indéniable que ces outils ont un effet notable sur l'inflation. Ça, je veux dire, l'histoire le montre assez clairement. Donc ces outils de contrôle des prix, ils présentent l'intérêt qu'ils peuvent à la fois limiter les effets pervers sur l'emploi et la croissance qu'engendrent les politiques monétaires restrictives qui sont menées actuellement, et ils présentent en même temps l'avantage de pouvoir cibler l'usage de ces contrôles, alors que l'outil actuel de taux d'intérêt, il frappe, on va dire, indistinctement tous les secteurs et tous les agents dans l'économie.
Eh ben merci beaucoup Léo Malherbe pour cette chronique fort intéressante. On réécoute cette chronique sur laclédesondes.fr, sur la plateforme Spectre, et on te retrouve pour une nouvelle chronique d'ici à peu près un mois. Merci Léo.
Merci, au revoir. Spectre.